Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel.
Cette semaine, En 60 minutes, Céline reçoit un passionné de géopolitique. Et il fait tout ça par lui-même. Voici l'invité de Céline. Aujourd'hui, Jean-Claude Pomerleau, En 60 minutes.
Bonsoir, bienvenue à En 60 minutes. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça me fait plaisir, d'autant plus que toi, tu étais une fan de Radio Infocité, puis à un moment donné, tu as décidé de t'impliquer. Alors donc, si tout le monde s'impliquerait comme toi, là, ça changerait bien des choses. Hein?
D'ailleurs, la première question que j'ai posée, ça a été à toi et M. Lehaye, lors d'une émission Point de bascule. Je vous demandais bien concrètement de m'expliquer qu'est-ce qui se passerait avec les pensions le lendemain si on était indépendant. Qu'est-ce que tu m'avais répondu? T'en souviens-tu?
Non, je ne m'en souviens pas de...
Tu as dit ça, il n'y a rien qui changerait.
Ben non, parce que là, tu répatries tes moyens financiers. Là,
exactement. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais des recherches, hein?
Je suis plongé là-dedans depuis 10 ans.
Oui?
Oui, c'est ça. La particularité de ma recherche sur l'histoire et la situation politique actuelle, c'est que petit à petit, je me suis approprié une grille géopolitique. Puis ça change le regard par rapport à beaucoup de gens qui peuvent penser que la politique se limite au champ des idées politiques. Alors que d'un point de vue géopolitique, c'est pas ça du tout. La politique, c'est des intérêts, des rapports de force et de l'effectivité, dépendamment de où tombent les rapports de force. Et donc, c'est quelque chose... Avec le temps, je me suis rendu compte que dans le mouvement souverainiste, cette lecture-là de la politique, qu'on peut appeler la réelle politique, ben c'est comme ça n'existe pas là, ok?
Ça n'existe pas.
C'est absent et il y a des conséquences à ça parce que on est porté dans notre projet par une intelligentsia qui est complètement idéaliste et comme en déni de ce que suppose un tel projet. Parce que là, de quoi qu'on parle, là, quand on parle de faire l'indépendance du Québec? On parle de faire un pays du G7 en deux. Un demi-continent au nord des États-Unis, une puissance impériale anglo-saxonne. Alors, on comprend là que ça, c'est un big bang géopolitique planétaire, l'indépendance du Québec, OK? Alors, si tu regardes dans tous les discours, les réflexions qui ont été produits par l'intelligentsia du mouvement depuis 50 ans, il n'y a pas un qui va te dire ça, là, OK? Alors là, c'est une réalité, ça, OK? Et donc, la difficulté, elle vient du fait que, et puis là, on va arriver à notre sujet. Elle vient du fait que, justement, on a des idéalistes qui portent ce projet-là. Et la réalité, c'est que la population sent de plus en plus depuis, je dirais, 1995, que le cadre stratégique qu'on propose pour arriver à la réalisation de l'indépendance ne passe pas le test de la réalité. Alors donc, le mouvement souverainiste, il est face à un défi qui est très simple, qui est le défi du réel. Et présentement, on parlait avant de la situation actuelle, on est dans une campagne électorale, on a quoi, une dizaine de jours de fait, là, au moment où ça va être diffusé, et puis on comprend que le mouvement souverainiste qui est porté par des partis, eh bien, il s'effondre.
Le mouvement souverainiste est en train de s'effondrer.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas la quête d'une nation vers son affranchissement. C'est juste la façon, le cadre stratégique qui est proposé pour y parvenir, qui pose un problème pour cette nation-là. OK? Alors, donc, c'est une nation, faut pas oublier, là. C'est une nation qui a 400 ans d'histoire et qui a eu la plus grande partie de ce parcours-là avec un vent contraire, OK? Avec des forces assimilatrices qui visent à éteindre cette nation-là pour en faire un groupe ethnique dans le beau grand Canada. Et puis donc, ils ont un instinct, là, OK? Puis c'est un instinct profond, puis c'est l'instinct qui parle. Et puis là, on peut arriver à la situation actuelle, cette campagne électorale-là, qui est comme une fin de parcours avec le cadre stratégique qui a été proposé depuis une cinquantaine d'années, OK? Là où ce que la population ne suit plus du tout, et puis que peu importe la qualité des politiciens, l'intérêt des programmes, je dirais aussi la qualité de l'équipe, comme du Parti québécois, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et là, le problème qui s'est posé, c'est que la proposition souverainiste ou indépendantiste qui a été mise sur la table depuis ce temps-là, que les gens se sont divisés parce que ça a crispé les gens. Ils voulaient pas suivre un pari comme ça avec des idéalistes. Tu sais, tu vas aller au front avec des scouts. Puis là, tu joues ta vie. Là.
C'est ça.
OK, grosso modo, là, ça l'instinct profond c'est de ça. Cette nation-là.
Ouais.
Là. Ils n'ont vu d'autres, là. OK?
Ouais.
Alors donc, ils veulent pas y aller. Et donc, les libéraux, au moment où la Parti québécois est la référence, l'alternative du pouvoir, les libéraux, ils ont juste à ajuster référendum. Puis, peu importe que c'est un parti qui est le plus corrompu de notre histoire, il demeure au pouvoir.
Tout le monde met son
Alors, ce qui change, c'est que il y a un autre choix qui est apparu, qui est la CAQ.
Ouais.
OK? Et la CAQ, les gens, avec le temps, là, les libéraux, là, il y a un réflexe là, de dire, en tout cas, dans la population francophone, on veut plus les avoir.
C'est
okay?
ça. Ouais,
il faut les sortir.
Ouais.
Et donc, dans ce contexte-là, okay, où est-ce qu'il faut les sortir du pouvoir, là, la division du vote qui dure depuis un bon moment déjà, OK? Les francophones divisés sur des propositions d'idées, le Parti québécois ou la CAQ ou Québec solidaire qui est un allié objectif des libéraux puis des fédéraux, là, c'est assez clair.
Mm-hmm.
Et donc là, eux autres, ils vont apparaître un choix où on va pas les dramatiser dans une aventure, OK, qui est proposée par des idéalistes, OK?
Non.
Alors, donc, là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un parti qui vient puis qui leur dit l'identité, oui, c'est important, voici ce qu'on va faire, une charte des valeurs, voici ce qu'on va faire, l'immigration, ils pèsent sur des boutons, là, qui résonnent profondément pour cette nation-là.
Mm-hmm.
Fait que, ce qui est arrivé, c'est que le Parti québécois, pour prendre un choix pour éliminer les libéraux du pouvoir. Tu sais, le Parti québécois représentait encore un choix, sauf que la CAQ arrivait à égalité, puis c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'implosion du Bloc. Ça n'a pas aidé là, donner une crédibilité à ce mouvement-là. Là.
Mm-hmm.
OK, c'est comme... C'est pourquoi qu'ils se déchirent entre eux là, tu sais, je veux dire.
C'est parce qu'on s'était retrouvé dans un cul-de-sac
C'est ça. C'est que là on voit.
On cherche le coupable.
Ben oui, mais tu comprends, on est dans un cul-de-sac. C'est assez clair, ok. Puis ça dépend pas de la qualité du chef. Comme on peut donner l'exemple en 2011, Gilles Duceppe, il est mononné 44 députés. Le même chef, il a pas fait de gaffe. Il y a deux députés. OK? Il y a quelque chose qui a changé qui n'est pas lui, là.
C'est
okay?
ça.
C'est pareil pour le Parti québécois. Mm-hmm. Tu sais, ceux qui me disent que oui, si on avait parlé plus d'indépendance, là, tu serais juste descendu plus vite.
Mm-hmm.
OK? C'est juste ça, là. OK? Pourquoi? Parce que, je le dis depuis le début, dans le cadre stratégique qui est proposé pour réaliser cette indépendance-là, il est complètement déconnecté de la réalité.
C'est un rapport de force, et puis avec Ottawa, puis c'est une doctrine d'État.
Ben oui, mais c'est parce que c'est quoi la souveraineté, OK?
Ouais.
C'est pas un pays rêvé pour faire de la politique progressiste,
c'est ça,
là.
C'est ça.
OK? C'est un changement de statut d'un État.
Mm-hmm.
C'est ça que c'est, la souveraineté.
Mais personne ne parle d'État.
Ben non, personne ne parle d'État, puis on va y revenir.
Ouais.
Parce que on est dans un cul-de-sac.
Oui.
Il y a quelque part, le GPS
n'a
pas marché, c'était dans le champ.
Oui.
OK? Exactement. Là, on revient pour dire où est l'erreur.
Oui.
L'erreur historique. J'ai fait regarde, je vais te le montrer. J'ai fait ça avec mon ami Christian Rivard.
Oui.
C'est l'erreur historique du mouvement souverainiste. Donc, de quoi ça, on parle là? C'était à Nomos TV, OK?
Oui.
Géopolitique 101, c'est un volet que je fais là-bas.
Oui.
Parce que moi, toutes les lectures que je fais, c'est à partir de la discipline de la géopolitique, parce qu'on est dans les affaires d'État.
Oui.
Le monde ne comprenne pas. Tu poses la question, où est l'État? Où est l'État?
Oui.
Ben oui, l'État n'est pas là, là. Tu sais, tu me dis,
oui.
On va changer le statut de l'État et tu n'as aucune référence à l'État.
Non, personne.
Tu as une doctrine d'État, stratégie d'État, etc. Ça n'existe pas, là.
Non,
OK?
Non.
C'est un pays rêvé qu'on obtient après avoir fait des concours d'oratoire. Et puis là, on a gagné, on a un bout de papier de plus dans le comptage. Puis là, oups, le pays y arrive. Tu comprends? Le pays, il est là. Ça fait 400 ans qu'on le bâtit.
Mm-hmm.
C'est le contrôle effectif du territoire qui nous échappe. Là.
C'est-à-dire que tu disais que la souveraineté, l'indépendance, c'est une somme.
Oui, c'est une somme. C'est parce que, tu sais, je veux dire, puis là, on va arriver à l'État. Okay?
C'est où qu'est arrivée l'erreur historique?
L'erreur historique est arrivée au moment où on a l'édification d'un État au Québec. Okay?
Ouais.
Alors donc, cet État-là est apparu comme proposition stratégique concrète avec Lionel Groulx en 1937, quand il dit « L'État français, nous le voulons, nous l'aurons. » Et il n'a pas juste dit une phrase creuse, il a dit « Ça nous prend des élites économiques. » Ça prend des partis politiques au Québec qui n'ont aucun lien avec les partis fédéraux parce que c'était toutes des succursales des partis fédéraux avant. Ça prend l'autonomie. Il dit « Ça va prendre 50 ans avant d'arriver à l'État du Québec. » OK? Alors donc, il promet ça, et là, après ça, c'est Duplessis qui prend le pouvoir de 1944 à 1959. Puis Duplessis, OK, il va se battre comme un chien enragé pour l'autonomie. Ça, c'est la première affaire. Bâtir l'autonomie qui, après ça, on va voir, c'est ce qui mène à la capacité d'avoir un droit à l'autodétermination. OK? Alors, donc, il s'est battu pour ça. Et puis, en 1960, il y a eu beaucoup de développement du Québec sous Duplessis. On y a fait un très mauvais procès. Et là-dessus, on travaille avec un groupe pour revenir faire la lumière sur la grande noirceur.
OK.
C'est une question de parenthèse, là.
Mais
OK. Mais c'est important parce qu'il faut refaire corps avec notre histoire.
Oui.
Si on veut comprendre où on s'en va, là. OK. Comme disait Lionel Groulx, celui qui porte l'histoire porte l'avenir.
Oui, oui.
OK. Donc, la situation, c'est qu'en 1960, quand Jean Lesage, lui, arrive puis dit on a un État. L'État n'est pas né dans la nuit, là.
Non, non, non.
OK?
C'est
qu'il y avait une somme.
Oui.
C'est ça ta question?
Oui.
Il y avait une somme d'investissement qui faisait que le Québec, avec une population jeune, avec pas de dette, avec le développement, OK?
Les assises.
Ben oui, oui. On avait placé les assises de l'État.
Mm-hmm.
Et puis là-dedans, l'Église de Rome, les institutions. Ils ont fait comme un peu l'armature de l'État pendant une grande période. Et là, arrive 1960. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette nation-là qui était dans l'assise de la religion, en réalité, l'armature de l'État, qui portait la cohésion nationale et défendait le français comme une cause sacrée.
Okay? Oui.
Là, cette population-là va aller s'investir dans un État séculier, OK? Bon, un État, disons...
Tout le monde est sorti de l'école, les sœurs, les pères...
Là, il passe de...
Oui.
Et là, il y a Gérard Bergeron qui a écrit un livre qui s'appelle « L'État du Québec en devenir ». Et là, lui, c'est un des rares qui a fait une réflexion approfondie sur le thème de l'État. Un des rares, puis c'est, on peut lire, c'est gratis sur Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC classique.
OK.
UQAC classique, vous faites ça sur le moteur de recherche.
Ouais.
Gérard Bergeron, vous avez accès à ses livres, Petit traité de l'État et celui-là. L'État du Québec en devenait. Et il dit là-dedans,
ouais.
OK? Il dit, en 1960, on est passé d'un nationaliste culturel à un nationaliste étatique. Parce que là, on va être porté par un État là, qui prend un sens concret, là, OK?
Oui.
Jean Lesage, l'État du Québec, parle jamais de la province,
c'est ça.
OK?
Oui.
Il dit, et donc, il dit, à ce moment-là, l'État du Québec devient ce qu'il fait. C'est Gérard Bergeron, devient ce qu'il fait. L'État pose des actes, puis il devient ce qu'il fait.
Mm.
Tu comprends?
Mm-hmm.
On est dans l'édification de l'État, là, ça devient clair, OK?
Ouais.
Parce que la somme d'investissement nous a emmené là.
Ouais.
Et là, en devenant ce qu'il fait, il rentre en compétition, il se dresse contre l'État fédéral.
Ah bon?
Donc, Là, tu es dans le game, OK? Oui. C'est-à-dire un État qui se dresse contre un autre, OK? Puis pour échapper à sa domination sur son territoire. Les sortir de nos compétences sur notre territoire, OK? Mm. Donc, c'est pas le Québec sort du Canada, c'est le Québec sort le Canada du Québec. Mm-hmm. Ça, c'est différent, OK? Mm. C'est très important, parce que si tu le comprends de même, tu vas pas demander la permission fédérale de sortir de ton territoire, tes pouces, OK?
Tu penses pas à leur demander, s'il vous plaît, sortir.
C'est ça. Puis Maurice Duplessis, qui, d'après moi, avec un regard géopolitique, c'est celui qui a été le plus conséquent des premiers ministres indépendantistes, lui disait, regarde, on est là, on pousse la clôture. On pousse la clôture. Et puis, Daniel Johnson va venir parce que on va avoir Jean Lesage, va dire l'État, etc. Mais il va perdre le pouvoir en 1976. Puis Daniel Johnson, père, OK, celui qui a fait venir De Gaulle, OK. Ouais. Et on va revenir dans ce que je te disais, le petit projet qu'on a sur la. Parce que lui, dans une plus petite plaquette qui s'appelle Égalité ou indépendance, il ramasse en 125 pages toute la game, OK? Mais pas la game qui va suivre par après avec le mouvement souverainiste des idéalistes. Lui, c'est la nation, l'État, l'autonomie, le droit à l'autodétermination, la reconnaissance de la nation et de l'État du Québec imposée et non négociée, OK? Mm-hmm. C'était ça son... Puis il y avait tout, tu sais? Puis Jacques Parizeau va dire de ce petit livre-là, cette plaquette-là, que c'était génial parce que le monde était rendu là. Il y avait à 10 % d'indépendantistes. Puis lui, il était en train de se faire élire avec une plaquette qui dit égalité ou indépendance. Oui. Fait que t'en as une gang contre toi, mais là, il réussit assez habilement, OK? Parce que c'est le dernier qui pensait l'État. Donc, Daniel Johnson est le dernier premier ministre qui avait une doctrine d'État. Par la suite, OK? Là, la proposition... Puis Daniel Johnson, il était très sérieux. T'sais. Il y a un épisode où il y avait l'aérienne à l'époque, OK? L'aérienne qui était à l'élection 76 à 5 % des suffrages, OK? Et il y a eu une approche entre l'aérienne et l'Union nationale, OK? C'est pas très peu connu, mais c'est rapporté dans la biographie de Daniel Johnson de Pierre Godin, excellent. Excellent. Tu veux savoir comment ça s'est joué la game, OK? Mm-hmm. Ça, c'est... Et tout ce monde-là, maintenant, il n'existe plus comme référence dans les réflexions sur les stratégies souverainistes. Or, c'était les seuls qui qui avaient fait de la souveraineté une affaire d'État.
Ouais.
Les autres, c'est... tu comprends?
Comme ça, il y a eu une rencontre entre Pierre Bourgault et Daniel Johnson.
Oui, il y a eu deux, OK? Il y a eu une rencontre... avec l'équipe de Johnson et, disons, les penseurs du RIM. Et puis, dans cette rencontre-là, il voulait absolument que Daniel Johnson se compromette complètement pour l'indépendance. Il saute une étape, OK? Mm-hmm. Et puis, donc, on voit que c'est l'idéal qui parle, là, tu sais. Et là, Daniel Johnson, là-dedans, là, c'est les gens qui étaient à la réunion, ils ont dit... ou on en parle puis on la fait pas, ou on en parle pas puis on la fait. Mm. Et puis, il y a eu une autre rencontre, là, avec Daniel Johnson et Bourgault, une heure, et puis Daniel Johnson, il a offert à Pierre Bourgault un siège. Donc, l'aérienne, au lieu de rentrer dans le Parti québécois comme ils ont fait, il aurait rentré dans l'Union nationale pour y donner du costaud, OK? Il était prêt à ça. Il l'a offert. Puis là, encore là, Pierre Bourgault dit, si tu te compromets totalement sur l'indépendance, il dit, on pourrait embarquer. Sinon, nous autres, c'est le grand soir ou rien, là, OK? C'est ça, OK? Mais, tu sais, politiquement, là, OK?
Alors, lui, il faisait partie des idéalistes.
Oui, c'est évident, ça.
Bourgault,
c'est un idéaliste, c'est pas un stratège politique, là, OK? C'est lui, pour lui, la politique, ça se résumait à des idées et puis des intensités dans l'implication. Et donc, Daniel Johnson va dire, quand il a dit ça, il dit, s'impliquer pour l'indépendance, il dit, t'as-tu vu qui m'entoure? OK? Il faut savoir qu'à cette époque-là, et puis ça a été rappelé par Antonio Flamand au fameux souper des Patriotes en novembre passé, à l'effet que lui, il était dans le caucus, là, Antonio Flamand. Il dit le caucus, majoritairement, était contre Daniel Johnson. L'indépendance était à 10 %. La réunion est en 65, 1965, l'élection va avoir lieu en 66, puis il va la gagner. Tu penses-tu qu'il l'aurait gagné avec la proposition de Bourgault?
Il n'aurait pas gagné.
On n'aurait jamais vu le général de Gaulle venir au balcon, là. OK?
Et puis ça, cet événement-là, ça a créé, bien, ça a culminé.
C'est ça. Là, on avait la rencontre entre les idéalistes puis des gens qui sont dans une doctrine d'État. Ils savent exactement où ils sont dans la progression de la dynamique politique. Puis ils disent, gars, on est ici, là. OK? Là, on va provoquer le fédéral pour les amener à dire « Reconnaissez-vous les deux peuples fondateurs? Nous sommes une nation, un État. » OK? Et c'est ça qu'il disait dans Plaquette, Daniel Johnson. Il dit « Notre problème, c'est qu'on nous refuse le titre de nation. » C'est ça, la Constitution de 82. C'était exactement à bonne place. OK? Puis, lui, pour lui, s'ils ne te reconnaissent pas comme une nation, comme un État, ton droit à l'autodétermination que tu penses que tu as, qui est acquis pour toi, Il n'y a aucune effectivité. Tu comprends? Et on n'a pas dépassé cette étape-là.
On est encore là-dedans.
Au contraire, on a regressé.
C'est ça.
OK? On a regressé, on n'a pas arrêté de regresser. Et puis les gens se disent, oui, mais en 1995, on était à quelques voix. Tu comprends-tu? Ils sont dans les bouts de papier, là. Tu sais, ils sont pas en géopolitique, là. Non. OK? Non. Et de l'autre côté, on l'a su par après, entre autres dans deux livres qui ont été publiés, de Shawinigan Fox et puis de Iron Man, OK? C'est les déclarations des acteurs politiques dans l'État canadien qui disent il n'y aurait jamais eu de reconnaissance d'un oui gagnant, OK? Donc, tu étais dans un rapport de force direct. Et là, en même temps, et ça arrive à janvier 96, parce que là, le Bouchard, il est dans le portrait, et puis les appuis sont quand même assez importants, proches du 50 %, même ça a dépassé 50 %. Et là, la stratégie du fédéral, ça a été d'abattre ses cartes, de dire, regarde, vous en allez vers la partition du territoire québécois. Et il avait orchestré ça avec les Inuits, puis les Cris, et puis c'est... Puis là, ça a été un choc de réalité, parce que ça n'a pas fait partie des débats, parce que les souverainistes se sont dit « Oui, mais on a une étude de 4 experts internationaux qui nous disent que ça ne peut pas se faire. » OK? Tu réclames tes droits en position de faiblesse, tu les exerces en position de force. Tu comprends?
Oui, oui.
C'est ça. Donc, en 95... L'idée qu'on pouvait... on est à deux doigts d'un pays, là, OK? Le pays...
C'est pas le petit point 4%,
non,
là.
C'est ça. Parce que la réalité, c'est que pour arriver à un changement de statut, il y a deux conditions à remplir, OK? C'est que faut t'imposer ta décision sur ton territoire, OK? Tu exerces la compétence d'un État souverain là, OK? Et tu te fais reconnaître à l'international. Et ça suppose un rapport de force favorable vis-à-vis ceux qui s'y opposent.
Oui, okay? Exactement.
Et ce rapport de force-là, en 95, ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans un rapport de force. Tu comprends? Fait que quand arrivent les menaces de partition, tout ça, là, ça rentre dans la conscience collective. Puis là, il y a, avec le temps,
ça décline.
Et ce cadre stratégique-là, des idéalistes pour arriver à un changement de statut de l'État, c'est ce que présentement la population rejette. Puis là, regarde où est-ce qu'on est.
Oui, mais justement, pour faire le lien avec maintenant, il n'y a pas quelque chose que Bouchard avait dit à Legault dans le temps?
Moi, ce que j'ai... Là, Legault arrive, OK?
Oui.
Et lui, sa proposition, c'est essayer de reprendre des éléments, OK, qui constituent une nation, OK, puis les amener en avant, OK, sans traumatiser le monde avec le grand saut, OK?
Ouais.
Alors donc, tu sais, quand il dit l'indépendance, oubliez pas ça, etc., le Canada, on n'aura pas de référendum, il n'y aura pas de... on ne met pas en cause le cadre constitutionnel canadien, OK?
Mm.
Dormez en paix
dans
le roc. OK? Dormez en paix dans le roc. C'est ça que vous voulez.
Ouais.
Et là, si Et là, il y a deux volets, hein, parce qu'on est dans la perspective qui prennent le pouvoir. Oh, oui, majoritaire, oui. Minoritaire, c'est la question de Jean-Marc. On ne sait pas, OK? Non. On va pouvoir en parler la prochaine fois qu'on va se voir, fin septembre, OK? C'est ça. Ça va être pas mal plus clair comme portrait. Mais pour le moment, on a la perspective que la CAQ prend le pouvoir, puis c'est tragique d'une certaine façon, le Parti québécois qui se réduit comme une peau de chagrin, c'est ce qui s'annonce. Les conditions là sont là, puis le jello, il semble de prix, OK? Mm-hmm. C'est ça. Alors donc, ce qu'on va avoir à faire, c'est le 2 octobre, le monde va se demander, chercher l'erreur historique. Je veux juste... ici, qu'on a fait, là, sur Nomos TV, l'erreur historique du mouvement souverainiste sur Nomos TV. Bon, OK, c'est ça. Alors donc, ils vont tous se chercher, OK? Puis ils vont s'entre-déchirer possiblement, comme c'est arrivé au Bloc, OK? C'est parce que vous n'avez pas été assez indépendantiste, mais vous parlez toute la nuit, etc. Regarde, c'est pas ça pantoute. C'est juste qu'ils n'ont pas compris que le cadre stratégique, ça tenait pas de bout, OK? Ce que disait le général de Gaulle, tu sais, il n'y a pas de politique viable, là, OK, qui vaille en dehors de la réalité. Tu sais, tu peux bien spinner dans ta tête, puis OK, mais la réalité, c'est que tu es dans des rapports de force, OK? Ouais. Et là, comment, toi, tu développes une stratégie pour te placer dans un rapport de force favorable? Pas très compliqué, là, OK? Et donc, là, tu es dans... Le rapport de force existe entre deux États, là, OK? Et donc, comment, toi, t'édifies l'État pour te placer dans un rapport de force favorable? C'est très, très simple, OK?
Y a-t-il quelqu'un qui pense à ça dans le moment?
Non. L'État n'existe pas dans la réflexion.
L'État n'existe pas, c'est clair, net, précis.
Ben non, c'est ça. Tu regarderas partout. Regarde, on a...
Même Legault.
Mais Legault...
On va y revenir.
Mais on a, dans le slogan du Parti québécois, l'État fort pour des programmes sociaux, OK? On n'est pas dans la proposition de Daniel Johnson où il dit on est dans un enjeu existentiel pour la nation. Les autres ne sont pas dans un enjeu existentiel. Ils sont un enjeu où, si on gagne l'indépendance, on peut faire des programmes progressistes. Grosso modo, là, on peut faire une caricature comme celle-là, tu sais. Mais là, c'est pas ça du tout, là. On est dans une nation qui est en déclin,
ouais,
OK? Déclin démographique et qui, normalement, est portée par son État, OK? Pour compenser les forces assimilatrices du cadre constitutionnel canadien. Puis là, ton État, tu l'as abandonné à ce qu'il y a de pire prédateur de notre histoire, OK? Et qui, en plus de le saigner financièrement, le tourne contre toi, nation, pour faire ton procès. Tu sais? Comme étant, sinon, vraiment, tu veux proclamer tes valeurs, t'es un xénophobe. On connaît la recette, OK?
Ouais, c'est ça.
Là, c'est un peu ça que le monde en a plein de casse. Puis là, c'est là qu'arrive Legault. Puis il assume certaines parties de comme la Charte des valeurs. Donc, mais Legault, le problème avec la CAQ, tu sais, la CAQ prend le pouvoir, c'est scénario probable, où on en est, puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, OK? Et là, c'est assez intéressant parce que dans la CAQ, il y a beaucoup de bon monde. Il y a des souverainistes dans la CAQ.
Justement, là, tu as un organigramme que voudrais nous montrer.
Oui.
Ça sortait à Québec au 93, les postes de Québec, en tout cas.
Oui, c'est ça. Puis là, dans c'est une enveloppe brune qui est parvenue, puis les autres, ils ont dit, regarde, on va publier ça, voici.
Des transferts, mais c'est pas des transferts.
Oui. Là.
OK, ils ont changé.
OK, il y a dans la CAQ, premièrement, il y a Legault, je vais y revenir.
Oui.
Mais il y a deux groupes, OK? Oui. Il y a des souverainistes qui se disent, la population s'en va là, on va suivre là, puis nous, à partir de là, on va agir parce qu'on va avoir le contrôle de l'État.
Il y en a là-dedans qui sont brillants,
Gobain. C'est ça. Puis le contrôle de l'État, c'est l'enjeu.
C'est l'enjeu, finalement.
Là, quand tu te demandes c'est quoi l'enjeu de l'élection, c'est le contrôle de l'État.
C'est tout.
OK? Après ça, qu'est-ce que tu fais avec? Au profit de qui?
Oui.
C'est le contrôle au profit de qui?
Les libéraux le savent, ça.
Bien, les autres, ils le savent. Les autres sont dans les intérêts.
Oui.
Les autres, on est dans les idées.
Oui.
OK? Les idées divisent le monde, les intérêts réunissent le monde. Eux autres sont dans les gros intérêts.
Ben oui.
OK? Ils ont la main mise sur l'État. Ils sont, au travers de 15 ans, ils ont placé leurs pions à des postes décisionnels, puis ils mettent les richesses de l'État, le bien commun, au service des amis du régime. C'est très simple, ça.
Ce que tu appelles le réseau affairiste.
Ben oui, c'est ça. C'est ce réseau-là, OK? Et qui va être encore là, OK? Et c'est pour ça que là, la CAQ arrive dans quel contexte? Puis qui sont ces gens-là? Là, il y a deux clans à la CAQ, OK? Ouais. Il y a un clan affairiste, qu'on peut dire, puis il y a ceux-là qui viennent de la famille du Parti québécois élargi, OK?
Ouais.
Ça, c'est Jean Saint-Gelais, Hubert Thibault. Ça, c'est des grosses gommes qui arrivent avec le cahier de transition quand le pouvoir change.
Le comité de transition.
Le comité de transition, là, parce que là, c'est pas des candidats nouveaux de la CAQ qui vont arriver. C'est pas Sonia Lebel qui va arriver avec le cahier de transition. Là.
Non.
OK? C'est eux autres, OK?
Ouais.
Puis là, Stéphane Gobeil, ici, OK? Stéphane Gobeil, c'était le conseiller de Gilles Duceppe, le conseiller de Pauline Marois, mais c'était un gars très brillant. Puis, je te raconte rapidement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Trois-Rivières, dans une activité publique. Puis, c'était vers 2011, j'ai dit, il y a une affaire qui m'a impressionné avec Gilles Duceppe, c'est quand il a été à Washington, il a fait un discours, puis c'est la première fois que j'entendais quelqu'un parler en termes d'intérêts d'État, les intérêts des États-Unis, du Québec, du Canada, etc., comment ça pouvait se jouer dans un nouveau contexte. Puis là, il me dit, c'est moi qui ai écrit le discours. C'est moi. Bon, c'est lui qui a écrit le discours. Je dis, tabarnak, OK, parfait. OK? Alors, donc, ces gars-là, OK, puis il y en a d'autres ici dans les candidats, là, mais qui sont proches de la famille, OK? C'est des gens qui ont l'expérience de la gestion d'État. Alors donc, il va avoir de la misère à les tasser puis mettre des amateurs quand que lui va arriver à prendre l'État, parce que lui, il a un problème de crédibilité par rapport au fait qu'il n'a jamais gouverné, la CAQ n'a jamais gouverné. Bon, ça,
Et il y a un autre problème de crédibilité, parce qu'il a été vraiment au courant quand c'était le cover-up de...
Ben oui, mais là, on arrive à...
Ouais.
Le problème, c'est...
C'est François Legault.
François Legault, il faut rappeler dans quelles circonstances
il a quitté.
Et puis là, ça répond à la question, lui, il est-tu du côté du bien public ou des intérêts du réseau? Alors, il a quitté au moment où le Parti québécois, l'équipe de recherche, avait amené le dossier des fiers, le scandale, puis... qui mettait en cause son ami Charles Sirois, le cofondateur de la CAQ.
Okay? Tu pourrais-tu élaborer un petit peu plus?
Oui, c'était que les fiers, il y avait eu des fiers régionaux, là, des fonds régionaux. Finalement, il avait fini par placer de l'argent dans une compagnie à Montréal. Et puis, ça sentait pas bon. Donc, il y avait tout un dossier puis des questions prêtes pour attaquer le Parti libéral là-dessus. Et donc, François Legault a démissionné là-dessus.
Parti québécois, tu veux dire?
Oui, il a démissionné du Parti québécois là-dessus.
C'est ça.
OK?
Ouais.
Et donc, il a choisi de protéger son ami Charles
plutôt
que de défendre le bien public. C'est très clair, là.
C'est très clair, là.
Puis, deuxième phase, on travaille sur... En tout cas, il a son rôle en tant que critique des institutions financières pour l'opposition quand est arrivé le crash de la Caisse de dépôt. Et le monde, 10 ans plus tard, se demande « Que s'est-il passé? » Ben, regarde, c'était le rôle du porte-parole de l'opposition de faire la lumière, surtout qu'il y avait les informations pour faire la lumière. Alors ça, c'est une autre chose qui va possiblement apparaître.
Omerta.
Hein? C'est ça, exactement ça. Puis là, ça c'est grave, OK? Ça c'est très grave parce que il y avait le devoir, OK? Puis il y avait les informations, il y avait le devoir de faire la lumière sur ces pertes-là, OK? Fait qu'ils ont réussi à nous faire passer ça parce qu'il y avait une tempête parfaite, tu comprends? Mais ça passe pas le test des faits.
Non.
Et puis,
Il a même essayé de recruter Monique Jérôme Forgette pour son.
C'est ça. Qui, elle, était ministre responsable de la caisse, qui a été au cœur du cover-up, et plus grave que ça. Mais
oui.
On
ne
va pas rentrer dans ces
détails-là,
mais éventuellement, ça va apparaître.
Ben oui.
Éventuellement.
Ben oui.
On peut penser que ça va apparaître.
On peut penser.
Oh oui, on peut penser. Donc,
et puis,
on réfléchit.
Lui, oui, c'est ça. Mais c'est
ça. Donc,
c'est le problème, lui.
Lui
il y a la CAQ, puis il y a François Legault.
C'est le problème. Et ici.
Oui.
OK?
Oui.
Il y a là-dedans des gens qui vont devoir surveiller ce gars-là, OK? Idéalement, si on arrive avec un gouvernement minoritaire et le Parti québécois a sauvé les meubles, à ce moment-là, on serait dans une meilleure perspective. Mais une chose est sûre, les libéraux doivent perdre le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain, OK? C'est ça. Et d'autres choses que j'ai à dire sur la CAQ, c'est que c'est un parti qui a des couleurs du conservatisme.
Oui.
OK? Alors, le monde pense que le Québec est de gauche, gauche Montréal. Pas du tout. Tu comprends? Il y a un vieux fond bleu au Québec.
Oui.
C'est pas, ça n'a rien à voir avec la droite néolibérale, là. C'est juste que on essaie de faire, de prendre soin de notre grande famille, cette nation-là, en, sans, tu sais, aller dans les abus de gaspillage, d'appareils d'État trop lourds, etc. Ce qui a été le parcours historique de la nation québécoise pour les 400 ans d'histoire. La plus grande partie de nos 400 ans d'histoire, on baigne dans le conservatisme.
Okay? Oui, qui est vraiment pas comme le conservatisme de Harper,
non,
de
Andrew Scheer, rien à voir, Boucher, rien à voir. Bernier, c'est des vendus au réseau d'intérêt. D'ailleurs, ce conservatisme-là a donné les coopératives. OK? C'est un conservatisme-là.
Okay? Celui dont tu parles au Québec.
Au Québec, oui. Puis les coopératives s'opposent comme institution au capitalisme. Tu comprends? C'est ça. C'était comment être solidaire entre nous.
C'est ça, exact.
Puis ne pas être dépendant de ces grands leviers financiers-là.
C'est ça.
C'est-tu de la gauche, ça?
C'est vraiment souverainiste contre globalisme.
C'est ça que c'est. C'est
ouais,
ça que c'est.
Okay?
C'est ça. C'est ça notre histoire. OK?
Ouais.
Alors donc, puis ça, ils le faisaient avec peu de moyens. Ils l'ont trop fait avec peu de moyens. La mise en valeur du territoire, c'est fait.
Puis c'est encore là, c'est palpable.
C'est ça. Puis ça, c'est un fond, là,
oui,
OK? Puis
fond.
Le monde dit, c'est le même, en réalité, que ça devrait fonctionner, OK?
C'est ça.
C'est ça. Dans ce cadre-là, tu sais, on suppose qu'une Constitution du Québec mènerait à une Chambre des régions, puis un transfert des enveloppes et des pouvoirs. Ils vont se débrouiller, gars, ça va coûter moins cher. C'est sûr, OK? C'est certain, OK? Donc, c'est ça, c'est un vieux fond conservateur-là, OK? Et on a dans notre histoire, puis là, je travaille là-dessus, OK?
Okay?
C'est-à-dire, sur les perspectives historiques, là, on a le conservatisme, je te l'ai dit, c'était la plus grande période de notre histoire. Il y a eu deux périodes où on est tombé dans le libéralisme. C'était avec les républicains de 1837-38 et après la Révolution tranquille, OK? C'est ces deux périodes-là. Et il y a ces deux périodes-là, il y a un mouvement d'émancipation qui vise la rupture du cadre constitutionnel, hein, 1837-38, puis le Parti québécois,
oui.
OK? Et en 10, le rapport de force, c'est idéaliste, les patriotes, tu sais, hommage à leur mémoire, mais la réalité géopolitique, c'est que c'était des idéalistes qui n'avaient aucune idée du rapport de force en présence, qu'est-ce qu'il allait advenir,
oui.
Et ça mène où? Ça mène, le rapport de force mène à un statut. C'est comme ça que ça fonctionne, OK? T'as une guerre, t'as un traité. Là, t'as une confrontation, tu vas avoir un traité. Le traité, c'est quoi? C'est l'acte d'union. Alors, qu'est-ce que c'est l'acte d'union? C'est, rapport Durham, on va assimiler cette nation-là. C'est clair, là? OK? Et là, tu t'en vas avec l'autre libéraliste, idéaliste, du mouvement souverainiste, puis ça tient pas juste au Parti québécois, hein, c'est largement partagé. Et là, qu'est-ce que t'as? Ils s'en vont provoquer un référendum en 1980 qu'ils savent perdant, puis ça n'aura pas de conséquences. Ben non! 2 ans plus tard, OK? 1838, 1840, 1980, 1982, deux ans plus tard, dans les deux cas, la Constitution de 82.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que dit la Constitution de 82?
T'es pas
tu n'existes pas
c'est
comme...
ça.
C'est ça!
Ouais.
C'est ça, tu n'existes pas comme nation. C'est un déni de la nation. Puis c'est la bataille que Daniel Johnson menait, c'était sur ça. Okay? Alors donc, là, on a le libéralisme qui. C'est encore là, là. T'sais? Tout le monde baigne dans le libéralisme. Là. L'extrême gauche, là, au Québec, là, ça baigne dans le libéralisme. Des globalistes, tu comprends-tu?
Ouais, ouais.
C'est des globalistes.
Ouais. Il y a-t-il une influence des États-Unis qui, avec le semblant de souverainisme, de protectionnisme, de... En tout cas...
Ben, c'est, on est dans...
Oui, de Trump qui ramasse ses claques.
Ben, regarde, c'est make America great again. Ça veut dire quoi? On ramène sur la base des intérêts de notre État, de notre peuple. En réalité, c'est pas le peuple, mais c'est d'autres mondes. Mais grosso modo, c'est ça, sa proposition. C'est pour ça qu'il casse les ententes multilatérales pour revenir faire un match sur la base de un lien bilatéral, là où ce que son rapport de force est bien plus convaincant.
Ouais.
OK? C'est ça.
C'est
mais
tout.
C'est ça. Mais pour revenir à nous.
Mais ben, oui. Nous autres, on a une gang de. On est une gang qu'on regarde ça, puis combien il y en a qui l'haïssent.
Ben oui,
ils peuvent pas le sentir.
Mais c'est parce qu'ils sont dans les sentiments.
C'est ça, exactement.
Dans les affaires.
Les émotions.
C'est ça. Et Juste pour terminer avec la géopolitique.
C'est ça,
parce que, tu sais, pour faire de la géopolitique, ils disent qu'il faut que tu sois comme un monstre, tu sais. T'as pas de cœur puis t'as deux têtes. Ça veut dire que t'as pas de cœur, c'est que tu rentres pas dans les affects par rapport à si je suis fâché. Et quand tu penses à ta position, faut que tu puisses penser l'autre position aussi. Tu comprends?
Mm-hmm.
Et c'est ce déni-là qu'on a dans le mouvement, c'est que l'autre position, dans le cas des référendums, qu'est-ce qu'il y a à faire? Non, c'était comme une projection. C'est le Canada est un État démocratique idéal. Écoute, ils veulent ta peau, OK? C'est ça. Alors, mais c'est un État démocratique idéal. Puis qui dit ça? Les peu réduits de l'indépendance. Tu comprends? Ça fait que là, tu n'es pas en train d'apprécier la position de l'autre.
C'est
là.
Qui les peu réduits de l'indépendance?
C'est peu réduits de l'indépendance. Ils peuvent se reconnaître, là, mais ils sont eux autres dans le discours. Puis dans la crispation conceptuelle. Tu sais? C'est ça que c'est. Tu sais? Ça fait que là, on a tout un défi parce que à partir du 2 octobre, il va falloir ramasser les morceaux qui tombent du plafond. Là. Et puis, revoir le cadre stratégique qui a été adopté pour un autre cadre stratégique. Et dans cette perspective-là, il va falloir revenir...
Il n'y en a pas des milliers de cadres stratégiques?
Non. Ben non, parce que si tu... Le seul qui avait une doctrine d'État, c'était Daniel Johnson, le dernier. Et nous, on revisite Daniel Johnson, on l'épluche, OK, pour voir ses fondamentaux géopolitiques. Et on va ramener ça parce qu'on travaille sur une petite plaquette, une soixantaine de pages, pour dire, gars, passe pas à côté de l'État, là.
Tu as parlé d'un texte tantôt, tu voulais amener aux médias corporatifs, là, aux grands médias.
Ouais, mais j'aime autant pas en parler
tout de suite.
On va faire écho.
Ça va faire écho, hein?
Oui, à la prochaine rencontre.
Oui.
C'est ça, ça va me faire plaisir. Et ça devrait, à ce moment-là, avoir été proposé à des grands médias. Puis s'ils refusent, bien, on va le faire sur vigile.
Parce que c'est bien clair, là. On se retrouve dans un cul-de-sac. Il y a des choses qu'on se rappelle qui arrivent au PQ dans le moment. C'est pas la question de chercher un coupable. C'est de se trouver un cadre stratégique qui convient, qui est celui de l'État.
Ben oui, puis aussi, regarde, parce que, tu sais, dans deux premiers principes, OK? Oui. T'apprécies le contexte et la situation. Dans le contexte, là, quelqu'un qui dit il faut crier, vive l'indépendance, regarde. C'est peut-être exactement le contraire qu'il faut faire.
Oui, c'est ferme faire, ta gueule. Faire, c'est ça, exact.
Ferme ta gueule, puis gars, retourne prendre le contrôle de l'État, puis fais ce que tu as à faire. La première chose à faire, c'est se doter d'une constitution d'État. De quel État parle-t-on, tu sais?
Curieux qu'un homme comme Pierre-Carl Péladeau, qui est quand même un chef d'entreprise...
C'est un chef d'entreprise, Pierre-Carl, mais c'est pas quelqu'un qui a une culture d'État. OK, on l'a vu, regarde, moi je l'aime bien, Pierre-Carl, c'est un gars qui amène une énergie puis un aura sur la cause, tu sais, puis qui allume du monde là, puis c'est pas pour rien, puis on sent que c'est un gars qui a bâti des choses, qui est capable de gérer des équipes nombreuses, puis tu sais, c'est ça a de l'envergure, OK.
Un visionnaire, okay,
tu parles d'un milliardaire patriote là, c'est une rareté quand même.
C'est
là,
ça.
C'est
non.
Ça. Sauf qu'une culture d'État là, regarde, ça s'improvise pas là.
Qu'est-ce qui se passe avec lui, puis Liré, puis Daniel Turr?
Ben oui, c'est ça. Ben Liré, c'est quoi? Ben regarde, c'est des moyens. Les moyens sont là, OK?
Mais ils sont mal utilisés.
Les expertises sont là. Les équipes, tu comprends-tu, qui pourraient se constituer, sont là. Sauf que...
C'est ramené par des idéalistes.
Ben oui. Ils sont dans un cadre stratégique où ce que toute l'action de Liré va se résumer à produire un argumentaire pour convaincre les gens pour un référendum. OK? On n'est pas dans les affaires d'État, là. Tu sais, je veux dire, on est dans des débats d'idées, des débats rationnels. Oui, ça va rapporter de temps, puis ça, oui. Puis là, il y a un expert constitutionnel qui a dit que ça, c'est possible selon l'article. Tu comprends? Ils ont limité le champ d'action à produire l'argumentaire plutôt que élargir le champ d'action pour faire de ce projet-là une affaire d'État.
Eh bien, c'est comme ça qu'on reprend le contrôle.
Une affaire d'État.
C'est okay? Ça. Ouais.
Et si tu veux faire ça, immédiatement, dans l'IRE, il faut que tu développes un volet géopolitique.
Politique, ben okay. Oui.
OK? Parce que la géopolitique, c'est la discipline qui fait de l'État l'objet premier de son étude. Qu'est-ce que je te dis? Si tu veux soigner du monde, puis t'es pas médecin, t'es plombier. Là, mais c'est ça. Fait que,
Non, mais ça ne vole pas haut.
Hein? Non, mais c'est des provinciaux. Ils sont dans le cadre provincial, ils fantassent sur un pays, ils ne sont pas dans les affaires d'État. Ils ont abandonné l'édification de l'État avec la Révolution tranquille pour partir en quête d'un pays fantasmé. C'est tout. C'est ça l'erreur historique.
Oui, puis avoir jeté dehors le... Là, c'est ça que tu me disais tantôt, je t'ai dit, c'est parce qu'on est passé du religieux au séculier, puis en même temps, tout ce qui nous réunissait là, ensemble, la population, il n'y avait plus. C'est quoi qui nous tient ensemble?
C'était l'État, notre État.
Notre État.
Le seul État où on peut dire on a une prise sur notre destin.
Oui,
l'État français en Amérique.
C'est ça.
Mais quand... Regarde comment ils ont fait évoluer le concept de nation, OK?
Oui.
Dans Daniel Johnson, la nation, son existence, les moyens à prendre pour l'assurer, OK? Après ça, tu arrives avec Robert Bourassa, tu as la société distincte. Tu n'es plus une nation, tu es une société, tu te définis comme étant distinct d'un autre. Qui êtes-vous? Ah, moi, je suis distinct d'un autre. Mm. Regarde, déjà là, tu es dans l'effacement, OK? Mm. Mm. Puis après ça, qu'est-ce que tu as avec le Parti québécois? La nation civique. Elle n'a plus d'histoire, elle n'a plus de profondeur, elle n'a plus de consistance, elle n'a plus d'épaisseur. Son destin, cette nation française-là, en Amérique, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est des programmes pour faire des politiques progressistes.
C'est ça la dispersion d'un peuple?
Bien, c'est ça, mais gars, le cadre du libéralisme là, fait disparaître la substance de la nation. Partout.
Ah oui, c'est pas...
Puis là, c'est avec rage, là,
oui,
OK?
Oui. Oui.
Là, on est rendu dans la racisation des groupes qui sont montés contre la nation. C'est ça que c'est un peu partout, là,
en Occident. Ils sont montés contre la
nation. Ben oui, c'est parce qu'aussitôt que tu viens dire, nos valeurs, xénophobe, il n'est pas ouvert, Eux autres, sont-ils ouverts à la majorité qui les accueille?
Oui, non.
Hein? Bon, c'est ça que c'est, OK? Alors donc... On est là à faire un job au niveau de doctrine politique. Doctrine politique qui repose sur une doctrine d'État.
OK. Fait que là, notre seul... nous autres, là, avec notre comité de transition, là, c'est eux autres qui s'en vont avec ça, eux autres.
Hein? Bien, eux autres, regarde, je ne sais pas qui là-dedans qui comprend ça, là. C'est un peu désespérant. Dans le sens où, bien là, ils vont être forcés, ayant écarté le pays rêvé, à revenir à l'État. Au moins, c'est la majorité francophone qui reprend le contrôle de son État.
Si tu te retrouves avec l'État, faut que tu le contrôles, là, ces libéraux sont plus là, là.
Ben, ils sont plus là, ils sont là, parce qu'ils sont dans l'appareil d'État incrusté partout. Fait que c'est ce ménage-là, faut que tu fasses.
T'as dit déjà que François Legault avait pas les couilles pour faire le ménage.
C'est pas qu'il a pas les couilles, c'est juste qu'il est trop proche.
Il est trop proche.
Tu sais, puis il y a deux fois où il devait passer le test, il a failli.
Puis eux autres, ils savaient, François Legault, quand eux autres sont arrivés à CAQ, ou bien ils ont caché leur jeu?
Non, eux autres, ils ont une idée de cette période-là, c'est sûr, tu sais, parce que, regarde, lui, Saint-Gelais, c'est lui qui a fait le cahier de transition, le comité de transition de Pauline Marois, OK? Fait que lui, Pauline Marois, à ce moment-là, elle parlait de Legault, et elle a donné des informations, puis un petit livre qui a été écrit, « Le mirage François Legault ».
Oui, par Gilles Coupin.
Oui, c'est ça. Bon, ils ne peuvent pas être complètement ignorants du fait que Legault, tu sais, c'est pas la confession, tu sais, je veux dire...
Les intérêts du Québec, là, puis François Legault.
Oui, il peut... Non, il y a une partie des intérêts sur la nation,
ouais.
Tu sais, sur l'immigration, sur la Charte des valeurs, etc. Là, il va se confronter à Ottawa. Et là, il a dit une chose qui est assez intéressante quand même sur ce volet-là, là, OK?
Ouais.
Mettons, le volet dit identitaire. Il a dit, s'il faut, on va utiliser la clause dérogatoire. Alors, il y avait une journaliste devant lui qui posait la question, puis tu comprends?
Ouais.
Oh, c'est
ça. Le réel, là.
Oh, oui, c'est ça. Ils ont voulu l'utiliser.
Ouais.
Ça, sur ce volet-là, c'est intéressant parce que ça va déclencher une dynamique.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
C'est ça que c'est. Puis c'est ça que le monde veut entendre.
Oui.
C'est ça qu'ils veulent entendre.
Oui.
Que le Parti québécois a abandonné
okay,
pour faire du progressisme jusqu'à plus capable.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, on espère que le Parti québécois va sauver les meubles puis qu'il va encore être présent, mais on va être dans un autre paradigme. On va être dans le paradigme de continuer à se faire saigner l'État par le réseau qui va être rendu à la CAQ ou... est en train d'édifier l'État par un réseau qui est aussi dans la CAQ, qui sont des souverainistes. Ouais. C'est ce qui s'annonce.
Puis tu aurais-tu abordé la récente saignée d'Hydro-Québec? Parce que c'est ça qui est...
C'est ça.
Qui est déjà en marche depuis...
C'est ça. C'est une affaire inattendue et inespérée que le PDG d'Hydro-Québec sorte pour dire...
Oui.
Le deal concocté par le régime libéral, OK, pour enrichir les amis du régime au détriment des intérêts de Hydro-Québec, moi, je ne peux pas participer à ça. OK, on parle d'Éric Martel.
Oui, exactement.
Okay? Et en faisant ça, il dit que ça va coûter 1,5 milliard à 2 milliards pour acheter l'électricité qu'on n'a pas besoin à des prix qui ne tiennent pas debout. OK?
Qui se rajoutent aux 10 milliards qu'on doit payer.
C'est ça. Et ça, ça fait à quoi? Puis personne ne l'a vu, mais je ne comprends pas que personne ramène l'affaire, c'est que ça, c'est quoi? Ça, c'est la privatisation des filières d'Hydro-Québec que ça met en question. La privatisation des filières d'Hydro-Québec, les filières centrales gaz, la filière éolienne, filière les petits barrages, filière biomasse, OK, tout privatisé de telle manière est-ce que et là, c'est une ordonnance du gouvernement, c'est un décret. Hydro-Québec ne pouvait pas interdire de développer ça. Parce que Hydro-Québec aurait pu développer les éoliennes, là, se faire tourner une hélice au bout d'un poteau. Ils sont capables, tu sais, je veux dire. Non. Et donc, ils ont forcé Hydro-Québec à acheter. C'est toutes des commandes politiques. Ça a été documenté à la commission parlementaire en 2013 quand Éric Thierry, qui était l'ex-PDG de Hydro-Québec, est venu témoigner pour dire « Oui, moi, j'étais obligé de les acheter. C'est un décret du gouvernement. C'est une commande politique. » Il dit « Ça ne correspond pas à nos besoins. Là, ça ne fait pas partie de notre stratégie. » Donc, ils ont utilisé Hydro-Québec. Et là, combien qui ont... Dans tous les contrats qu'ils ont signés à long terme, il y a des engagements pour Hydro-Québec pour 40 milliards. Ça te donne-tu la cloche, 40 milliards?
Oui. On n'est pas à 10, là, c'est 40.
40 milliards. Et là-dessus, il y a 10 milliards de payants en trop. Qui dit ça?
Oui.
C'est Jean-François Blain, qui est un analyste spécialiste du domaine.
Oui.
OK? Il n'y a pas...
Tu as fait un article, c'est l'éditorial chez Vigile.
Bien, ça, c'est l'éditorial de Vigile qui est signé par Vigile, OK? Parce qu'on ne voulait pas en faire un cas personnel.
Non, là, mais...
C'est ça. Parce que c'est ça, là. C'est ça ce qu'on dit dans cet éditorial-là.
Oui.
C'est ce que révèle le bras de fer avec Éric Martel et le régime. C'est ça que ça révèle. C'est qu'il y a eu 40 milliards d'engagement. Ils ont forcé Hydro-Québec. Ils vont se faire saigner minimum 10 milliards, puis l'électricité, ils n'ont pas besoin. T'sais? Mais même s'ils n'ont besoin, c'est 10 milliards. Pis c'est documenté par... C'est pas du fake news.
Non.
Alors... Là, ils voient ça sur Vigil, je ne sais pas combien, tu sais, peut-être 8000 lectures, tu sais. Mais, tu sais, il y a sûrement un journaliste qui est tombé... Tu sais, veux dire, peut-être, OK?
Qui? Moi, ce que j'observe des dynamiques à la CAQ et au Parti libéral actuellement, c'est que tu as un groupe là-dedans qui pense qu'à privatiser les profits au plus vite, puis mettre au public les pertes au plus sacrant.
Ah oui, c'est ça.
Oui, ils font payer de l'infrastructure, puis eux autres s'occupent de ramasser le profit.
C'est ça. Moi, je gère une compagnie, puis je passe la compagnie à signer avec toi pour un deal qui ne tient pas debout, tu sais. Puis là, c'est systématique. Mais c'est tellement riche, Hydro-Québec, que ça ne paraît même pas. C'est combien par année? Juste les filières, 1 milliard. Prends 1 milliard en dividende, puis tu viens de changer toute l'histoire de l'austérité. Tu aurais pu mettre cette ligne-là.
Mais il est encore temps. Où est-ce qu'on peut te lire? Où est-ce qu'on peut t'entendre, à part de nous autres, sur notre radio InfoCité?
Ouais, des fois. OK. Là, présentement, on travaille beaucoup sur des dossiers, OK? Alors donc, tout assembler ça, puis présenter ça, c'est beaucoup de travail, et puis ça va paraître dans les mois qui viennent. Mais j'ai ceux qui s'intéressent à la géopolitique, à la lecture géopolitique de la situation au Québec, concernant l'histoire ou concernant l'erreur historique, OK? J'ai quelques capsules de fait sur ces thèmes-là. C'est des capsules serrées, là, OK? C'est pas des discussions propos et confidences, là. On a structuré ça pour présenter l'histoire et puis la situation actuelle politique. Et puis, on a différents dossiers et pour faire comprendre aux gens comment lire une situation à partir des fondamentaux de la géopolitique. C'est comme incontournable. Là. Si on veut jouer ce game-là, là, ça prend des instruments, puis c'est ça, c'en est. Okay? Alors, donc, ça, on peut avoir ça sur Nomos TV. Il y a un onglet Géopolitique 101. Mm. Je suis là. Et puis, peut-être, je sais pas, une demi-douzaine de capsules, là, présentement.
Mm. Ouais.
Puis, vous pouvez les écouter, puis les réécouter, parce que c'est concentré. Puis, les gens sont pas habitués à avoir une explication géopolitique, ok? C'est comme ça rentre pas.
C'est, pourtant, c'est
les références habituelles, intellectuelles ne sont pas celles-là, ok? C'est absent. Alors c'est pour ça que vous dites, tu l'écoutes, tu le réécoutes, puis on a des références qu'on donne, des là, références, qu'entre autres, tu sais, sur le père de la doctrine d'État, Lionel Groulx. Lionel Groulx, ils ont publié une biographie l'année passée. Lionel Groulx, le penseur le plus influent de notre histoire, puis c'est vrai, c'est Charles-Philippe Courtois, okay, qui est professeur d'histoire au Collège militaire de Saint-Jean. Puis tu vois apparaître le gars qui a pensé l'État du Québec, la stratégie pour y parvenir. Ça, c'est Lionel Groulx, le père de la doctrine d'État. J'ai commencé à travailler des volets de l'histoire, comme j'ai fait le régime seigneurial.
Oui, c'est ça.
Parce que là, c'est le fondement, c'est comment tu prends possession de la terre, puis comment tu la divises. Puis si tu la divises de manière collective plutôt qu'individuelle, qui est le système anglais, tout le reste va suivre. Là,
les autres la rendaient effective, la terre.
Bien, c'est parce qu'il y avait très peu de gens,
oui. Beaucoup
de territoires à couvrir, peupler, mettre en valeur le territoire. C'est les deux premières missions de l'État
qui
ok. Et donc, ça prenait un cadre pour parvenir à ça. Ils ont réussi à le faire, puis contrôler tout l'axe des communications sur le fleuve Saint-Laurent, sur les terres basses, qui est l'État du Québec. Alors donc, ils ont fait ça, le régime seigneurial. Puis le régime seigneurial, c'est un peu un copier-coller du régime seigneurial en France, mais complètement différent, parce qu'ici, tout est au mérite.
Oui, exactement. C'est ça,
tout est au mérite. C'est-à-dire que tu avais une seigneurie ou tu avais un lopin de terre, si tu ne le mettais pas en valeur, il t'enlevait de là.
C'est ça.
C'est tout, c'est simple comme ça, tu sais. Fait que ceux qui étaient là puis qui le mettaient en valeur, le peuple, bon, mais il est en titre. Ça veut dire que il est en titre. T'sais. La noblesse venait de la possession de la terre, tu sais. Alors, peu importe comment c'était présenté comme schéma, la réalité, c'était que c'est un régime égalitaire.
Non, non, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? Ça, ben, ça l'est de la géopolitique. Tu parles de
État
utile.
Puis Marcel Trudel, qui est l'historien fédéraliste, tout ça, il y en a qui m'ont reproché d'utiliser Marcel Trudel, mais c'est parce qu'il dit, dans sa conclusion, que quand les Anglais ont pris le contrôle, la difficulté pour eux d'aller pogner du contrôle de territoire là où il y avait des seigneuries, parce que c'était comme des barrières. Il y avait un seigneur, il y avait une religion catholique, tu comprends ça? Puis les autres, regarde, un seigneur français, puis la religion catholique, tu sais, c'était des anti-papistes, des anti-catholiques, etc. Donc, tu comprends? Ça t'a permis de garder une certaine cohésion.
L'État protège son groupe.
C'est ça que c'était. Donc, ça a aussi eu cette vertu-là, tu sais. Puis c'était essentiel parce que ça nous a permis de garder notre cohésion nationale. Sinon, les Anglais, ils auraient pris la terre de petit à petit. Puis, il y a eu un épisode parce que, après le régime seigneurial, tu sais, il y a eu comment t'occupais la terre, c'était quoi ta stratégie pour occuper le territoire puis le peupler pour pas que les Anglais viennent s'installer. Puis là, arrivent les paroisses. Les paroisses, ben là, t'es une paroisse catholique, là, l'enseignement religieux. Puis là, toi, t'es un Anglais là-dedans. Tu vas faire quoi, là? Tu comprends?
Mourir de faim.
C'est ça. Il y a un espace au Québec qui est pas qui est une teneur anglaise. Tu sais quand?
Dans le Magog, dans ce coin-là?
Le canton de l'Est, OK? Eastern Township.
Eastern Township,
OK? Ça, c'est un régime de teneur anglais. Mm-hmm. OK? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Anglais, parce que c'était les loyaux qui avaient perdu la guerre d'indépendance qui ont refoulé là, OK? Il y en avait des milliers. Puis là, ils ont fait un système de teneur anglais, tout ça, mais les paroisses ont fini par gruger. Il y a un moment donné où il y avait deux Anglais pour un Français. Quand ça a commencé, la mise en place des paroisses pour les tasser. Okay? Et 50 ans plus tard, il y a 3 Français pour un Anglais. Tu comprends où est-ce qu'elle joue à game, là?
Ouais.
OK?
Ouais.
Et il y a un livre qui a été écrit là-dessus.
OK.
Qui s'appelle The Tragedy of Québec. Et c'est un Anglais qui a écrit ça en 1907. Et là, il rapporte tout ça, lui, cette transformation démographique-là. Puis il conclut en disant « La possession du sol, c'est la souveraineté.
Hmm. »
Il n'était pas de bonne humeur.
Non, non.
Ah, non, non. Pour lui, c'était tragique. OK? Alors là, on venait de gagner la bataille qui est sur les points essentiels, la démographie et la géographie.
1900...
Lui, il a publié en 1907.
Ça fait 40 ans après la...
Ouais. Lui, il a vu de 1860, en, tu comprends-tu, ouais. les 50 années qui venaient de se passer.
Ouais.
Il a fait le compte, il a fait les colonnes, puis il a dit...
On vient de parler de ça.
C'est une méchante tragédie. Personne ne l'a vu.
Personne
ne
l'a vu.
C'est-tu comme une personne qui connaît ce livre-là?
Notre histoire, elle...
C'est parce que si t'as en gré géopolitique, un livre comme ça, il te saute au visage. Et si c'est dans le débat des idées, blablabla, ce livre-là, tu ne le remarques pas.
Jean-Claude, on va te voir le 30, la veille des élections.
Bon, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. On va avoir beaucoup de choses à te dire, hein?
Mmh.
Parce que c'est une campagne électorale, là, je veux dire, c'est dans les 3 dernières semaines qu'on est sur un rythme de croisière et que ça peut dérailler fort.
En attendant, merci.
OK, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.